Bienvenue à ton émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Petite note météo pour débuter. À l'heure actuelle, c'est moins 6 degrés. Fait froid. C'est pour ça qu'Antonine, ceux qui sont sur Twitch, à son manteau et sa tuque.
La température de l'intérieur au studio est en cause ici.
Oui, en effet. C'est ensoleillé cependant. Demain, moins 6, faible neige, moins 7 pour mercredi nuageux et moins 7, alternance de soleil et de nuages. On est en hiver, on est en décembre. Le mercure a diminué, on pelletait hier. Bref, on va chanter « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». Qu'est-ce que t'en penses, Pascal Séveille?
C'était tellement une belle journée hier, arrêtez-moi ça.
C'était magique. Hein?
Ah, moi, j'adore ça.
Ah, moi aussi, j'ai adoré ça.
Par contre, il ne faut pas se faire prendre. Si vous êtes des fans de patios déneigés, de galeries qui ne glacent pas, il va falloir ramasser tout ça et mettre ça vraiment ra-ra-ra parce qu'avec la pluie et tout ça, ça va geler. Ça sera infaisable par la suite.
C'est fait avec ma conjointe Val. On a pelleté hier en venant de souper chez ma mère. Ah ouais, on a tout dégagé.
Les bons vieux sujets qui pognent, là. Il y a le déneigement aussi. On était comme pas prêts hier. J'ai eu affaire à être beaucoup sur les routes pendant ma journée. Puis ça glissait, là, mais j'ai d'excellents pneus.
Ça glissait
pneus,
vraiment beaucoup. Ah oui, moi, pour aller chez ma mère, Louis XIV, Pierre Bertrand, c'était très enneigé les deux boulevards.
Ah oui, c'était derrière une voiture mouvant. Là. C'est de gauche-droite, il faut freiner d'avance parce que sinon tu vois ton voisin trop proche. On est vraiment rendu dans cette saison-là. Puis toujours un petit truc météo d'hiver. Quand il fait soleil, il fait froid dehors.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. T'as entièrement raison. Les grands froids viennent avec le soleil. 418-971-1021. Comment vous avez profité de votre première vraie grosse journée d'hiver hier? Textez-nous-le. Également, vous pouvez nous écouter sur la web radio blvd.fm, l'application BLVD1021 et le twitch.tv/blvd/fm pour venir nous voir en studio et le superbe look d'Antonine Iaccarini.
Le look hivernal, montez dans le chauffage le studio, s'il vous plaît,
yes,
je suis d'accord avec elle.
Sir, manteau, tuc, let's go! Fait que, autant qu'elle soit, Antonio, on se lance direct.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
On perdra pas de temps, puis on va se réchauffer tout de suite.
Exact.
Qu'est-ce que t'en penses?
J'ai besoin de... Sérieusement, j'ai tous les doigts gelés, j'ai le bout du nez gelé.
Hey.
Je suis gelé.
Tu es en train de couvrir quelque chose?
Non, pas du tout, je suis en pleine forme.
Oh, il fait froid. Je sais, j'ai eu très froid ce matin dans le studio.
Non, non, mon erreur, c'est, tu sais, vous autres, vous avez chacun, Jeff, t'as un coton ouaté, Pascal, une petite laine. Moi, je suis en T-shirt. Erreur. J'ai mon manteau, je m'attends présentement.
Exactement, tu vas apprendre, ce n'est pas
grave. Je vais me fâcher aujourd'hui un peu, pas tout de suite, mais tantôt, je vais me fâcher. Fait que peut-être que ça va me réchauffer assez et que je vais enlever mon manteau.
OK, parce que là, tu allais dire, je vais me fâcher. T'es-tu fâché comme Stephen Guilbeault?
Non!
Guilbeault, il a dit, dehors, je m'en vais du Conseil des ministres, mais il reste au Parti libéral en termes de député. Il a eu son passage à Tout le monde en parle hier. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de Stephen Guilbeault?
Bon, écoute, sur le coup, je me suis dit, le fait de démissionner de son poste de ministre, et de s'exprimer, parce que c'est surtout le message. Tu sais, des fois, en politique, les gens, ils démissionnent puis ils disent « je veux passer plus de temps avec ma famille, clin d'œil, clin d'œil ». Là, il a vraiment quand même, dans son communiqué de presse, dans ses publications sur les médias sociaux, très bien expliqué que c'est parce qu'il est en profond désaccord avec ce qui est en train de se passer au niveau environnemental à Ottawa. Mais on décide de rester dans le caucus. Mais quand tu es dans le caucus, tu es libéral. Si tu es libéral, tu appuies quand même ce que ton parti fait, sinon tu quitterais complètement. Là, embarque le contexte politique dans lequel on se trouve actuellement, gouvernement minoritaire. Je pense que M. Guilbeault, même s'il est en désaccord et qu'il souhaite l'exprimer, il ne veut pas non plus activement nuire à son parti. Là. Mettons qu'on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe à Québec. Il n'a pas fait un Marois Risky, mettons.
Non, c'est ça. Il n'a pas fait une Maïté Blanchette Vézineau. C'est plus petite échelle, mais ça aurait pu faire la même chose et s'en aller comme indépendant. Il y a deux choses très intéressantes que tu dis là-dedans qui se retrouvent dans les extraits de M. Guilbeault. Je vais commencer avec le pourquoi il est parti, justement. Très intéressant à écouter.
Une semaine difficile.
Ben oui, je peux comprendre.
Tu sais, c'est un privilège d'être ministre dans un cabinet d'un pays du G7 comme le Canada. J'ai eu cette chance-là pendant 6 ans, un peu plus que 6 ans. Et
C'est les convictions, hein?
À un moment donné, il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir. Puis est-ce que j'aurais été capable de défendre cette décision-là puis de dire oui, je suis d'accord avec ça? Puis c'est sûr que j'en ai fait des compromis. Moi, j'ai 4 enfants. Je sais pas pour toi, mais moi, je gagne jamais toutes mes batailles à la maison.
Moi, j'en gagne aucune.
Dans un pays de 40 millions de personnes, c'est sûr que tu sais que tu vas en perdre, puis c'est normal. Mais oui, c'était la goutte de trop.
Tu sais, c'est carrément la goutte de trop quand tu as escaladé la tour du CN pour la planète Terre, puis que ton gouvernement s'en va signer une entente sur le pétrole avec l'Alberta en abandonnant les cibles de réduction de gaz à effet de serre. Tu peux pas faire autrement que t'en aller.
Non, puis M. Guilbeault a quand même évolué beaucoup depuis la folle époque là, où il faisait des coups d'éclat avec Greenpeace. Oui. Évidemment, il est devenu une personne un peu plus corpo, un peu plus dans le cadre, qui a décidé d'aller changer les choses de l'intérieur. Hein, parce que c'est toujours l'éternel dilemme. Quand tu veux changer les choses, est-ce que je rentre dans le cadre? Est-ce que je rentre dans le rang et j'essaie d'influencer de l'intérieur les politiques? Ou je fais des coups d'éclat puis j'ai donc raison, puis j'ai pas à faire de compromis? M. Guilbeault le disait, il en a fait des compromis au cours de sa carrière. Mais je pense que pour nous, de notre point de vue, de notre perspective du Québec, M. Guilbeault nous semble, avoir fait beaucoup de compromis. Il est assez modéré. Puis là, il y a des gens qui vont dire modéré. Mon œil, là, ça dépend de votre point de vue à vous. Mais il faut comprendre comment il est vu à l'ouest du pays aussi. T'sais, le départ de Stephen Guilbeault, c'est une victoire là, pour l'Alberta puis la Saskatchewan.
Non, c'est clair. Et à cet effet-là, justement, je pense pas que Stephen Guilbeault apprécie beaucoup l'ouest non plus. On l'écoute sur Danielle Smith.
L'élection de Danielle Smith comme première ministre de l'Alberta, c'est incompréhensible. Mais pour des raisons essentiellement idéologiques, elle a mis en place un moratoire sur les énergies renouvelables en Alberta. Ça représentait des milliards de dollars d'investissement. Ils ont perdu 5 à 10 000 emplois presque du jour au lendemain. Tout ça parce qu'elle a dit, moi, je ne crois pas à ça, les énergies renouvelables, même s'il y avait beaucoup d'argent, presque à ce moment-là, là, c'était plus de la moitié des investissements en énergie renouvelable qui se faisaient partout au pays, se faisaient en Alberta, dans sa province. Puis elle a dit, moi, je mets un moratoire là-dessus. C'est de la folie furieuse. Ouais. Puis nous, pour lui faire plaisir à cette dame-là qui ne sera jamais contente, parce que là, on a fait ça. Puis là, on se donne 2-3 mois, puis elle va dire, j'en veux plus, puis j'en veux plus. Ce n'est pas un partenaire fiable, à mon avis, dans cette négociation-là.
C'est de la folie furieuse, c'est pas une partenaire fiable, avant en vouloir encore plus. Donc, on voit que vraiment, au niveau idéologique, Danielle Smith et Stephen Guilbeault sont complètement à l'opposé.
Oui, bien, c'en est une qui fait moins de compromis, là, Danielle Smith. Puis c'est vrai, quand on regarde un peu au niveau des politiques qu'elle a mises en place, mais aussi des demandes qu'elle a faites au fédéral. Si on regarde le printemps passé, sa liste d'épiceries, tu sais, c'est pas compliqué, là. Si c'est bon pour l'environnement, elle est contre. Puis si c'est mauvais pour l'environnement, et pour. Là. T'sais,
en effet.
Des fois, il faut être pragmatique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire trop rapidement. T'sais, par exemple, les énergies renouvelables. Qui est contre ça, les énergies renouvelables? Mm-hmm. Ce qu'on peut être contre, c'est d'aller trop rapidement, d'empêcher les gens de surtaxer l'essence, tout dans le comment. Elle, sur le fond des choses, là, étant donné que l'Alberta vit beaucoup, l'économie tourne au rythme du pétrole, bien, par exemple, une des choses qu'elle avait demandé au gouvernement, c'est d'arrêter de faire des lois sur limiter le plastique à usage unique. Pourquoi? Parce que c'est fait avec quoi? Du plastique,
pétrole.
C'est fait avec du pétrole. Tu sais, je pense que même si tu n'es pas le plus environnementaliste au monde, hey, on le sait bien qu'on a bien trop de plastique, qu'il y en a partout. C'est rendu qu'il y a des îles dans l'océan, puis que ça affecte tous les écosystèmes. On a des microplastiques, je ne veux pas trop être dramatique, mais on le sait qu'on en a dans toutes les chaînes alimentaires, dans tous les écosystèmes, des microplastiques.
Dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit.
Fait, t'sais, c'est fou d'être contre l'objectif. Dans la manière, après, on peut s'obstiner. On peut dire, je vais aller moins vite, plus vite.
Sinon, on est contre la vertu, officiellement.
Elle est contre la vertu. C'est carrément
ça. Non, en effet. Puis je reprends l'exemple que tu disais que Stephen Guilbeault, qui était très à l'extrême environnemental, lorsque, justement, il a fait l'ascension du pont Jacques-Cartier puis de la tour du Seine, etc., quand il est arrivé ministre de l'Environnement, a fait des compromis, justement, en comprenant le jeu politique, en comprenant qu'il n'y a pas juste l'environnement, il y a l'économie aussi. Fait que je le comprends.
Il y a des décisions sur lesquelles il n'était pas d'accord.
Il y a des décisions sur lesquelles il a pilé sur son idéologie. Là.
Ben
ça,
oui,
c'est
clair. On peut penser au pipeline, pas Keystone, mais oui, Keystone. Il a été autorisé sous Trudeau. Et le projet Baie du Nord, qui sont probablement pas les plus belles journées qu'il a passées dans le gouvernement Trudeau. Mais là, à un moment donné, ce qu'il explique, c'est que on vient d'atteindre sa limite.
Oui.
Depuis que Mark Carney est chef du Parti libéral, On nous l'a brandé hein, pendant la campagne électorale comme le banquier vert, hein, quelqu'un pour qui le changement climatique, c'est très important. Et bon, il y a eu l'annulation de la taxe carbone. Probablement que le gouvernement n'aurait pas réussi à se faire élire sans l'annulation de la taxe carbone. OK, il y a des raisons politiques. Mais là, de voir jeudi matin, M. Carney avec Daniel Smith parler de pipeline, parler de nouvelles réglementations environnementales qui seraient levées pour accélérer les projets. Et moi, ce qui m'a beaucoup fâché là-dedans, c'est d'entendre, par exemple, un Dominique Leblanc là, qui venait défendre un peu, qui devait faire des entrevues pour expliquer que c'est pas si grave que ça, puis que Stephen Guilbeault aurait pu faire davantage de compromis, dans le fond, et qui nous dit, tu sais, de toute façon, là, c'est pas fait, là, hein, ce pipeline-là. Là, tu sais, on a dit, on a une pré-entente de peut-être que oui, que si, que ça.
Ouais, mais c'est ça.
OK. C'est... Donc, excuse-moi, je vais être direct. Dans le fond, tu t'as dit de la merde à Daniel Smith ou tu nous dis de la merde présentement. Mais
c'est, hey, c'est simple de même.
C'est pas compliqué, là. Ça, les deux peuvent pas être vrais en même temps.
Pourquoi non, mais... ça te fâche comme ça? Mettons une petite parenthèse. Parce que
tu vas enlever Mathieu.
T'as été dans l'arrière, justement, planification politique. T'en as vu des affaires, mais là, je te sens un petit peu plus piqué qu'à l'habitude. Fait que c'est intéressant, ça.
Bien, tu sais, on est tous au courant du nouveau contexte dans lequel on baigne. Il faut s'adapter. Les gens ont un petit peu plus d'ouverture, par exemple, à des projets d'oléoduc. Moi, en passant, je ne suis pas contre des oléoducs. Hein. Ce n'est pas idéologique, mon affaire. Ça dépend du projet, ça dépend du besoin, ça dépend de nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. On met tout ça dans la balance. Mais M. Carney, il nous a vendu quelque chose de complètement différent. Et les Québécois ont voté pour quelque chose en non-connaissance de cause. Et là, parce qu'on va flatter Daniel Smith pour essayer de l'apaiser, alors que, je m'excuse, mais l'Alberta et la Saskatchewan n'ont pas voté pour ce gouvernement-là. Le Québec a voté pour Mike Carney. Et là, on va aller faire le grand écart de l'autre côté. Tu sais, c'est ça que Stephen Guilbeault a dénoncé à un moment donné, de dire, attendez, là, faire plaisir à Daniel Smith, c'est incompatible avec tous les objectifs qu'on s'est mis. Et là, le gouvernement Carney nous dit « Oui, mais nos cibles restent les mêmes. Oui, mais elles ne sont plus atteignables si on ne pose pas les actions pour les atteindre. » Donc, moi, je veux dire, arrêtez de nous prendre pour des valises. Soit que vous avez menti à Daniel Smith, puis ça va venir vous remordre dans deux minutes, là, cette affaire-là, ou soit que vous êtes en train d'essayer de nous dorer la pilule et d'un côté ou de l'autre, j'enlève mon manteau.
Ben oui, t'as parlé,
j'ai dit que j'allais me fâcher. Donc, on nous prend pour des valises et je pense que c'est un manque de transparence et d'intégrité de la part du gouvernement. Et c'est pour ça que Stephen Guilbeault, je le sens là, dans la population, dans les commentaires que j'ai vus sur les médias sociaux au Québec, dans l'Ouest, là, ça ouvre le champagne, là, on s'entend. Oui. Mais je le sens que c'est venu chercher les gens et qu'ils ont acheté la version des faits de Stephen Guilbeault, même si il sort pas du caucus puis qu'on pourrait là, dire « ouais, il s'en va à moitié ». Je pense que les gens ont acheté son argument.
Ouais, puis tu sais, honnêtement, ça fait boboche en crime comme annonce. Puis je m'explique, là. OK, je t'annonce un pipeline, mais j'ai rien négocié avec les Premières Nations puis la Colombie-Britannique. Oui, mais tu le fais-tu ou tu le fais pas, tu sais?
Exact.
Là, Dominique Leblanc qui sort. Oui, mais attendez, c'est juste une idéologie, tu sais.
Alors, arrête de nous faire perdre notre temps avec des conférences de presse, d'abord.
C'est ça. Quand est-ce que Mark Carney va arrêter de faire des conférences de presse puis va avoir des résultats?
Bien, c'est ça. Que tu sois pour ou contre le pipeline, les gens vont être fâchés.
Parce que
c'est rien. C'est comme vous faites des annonces pour faire des annonces fâchant les gens qui sont contre les pipelines, puis vous ne livrez pas fâchant les gens qui seraient pour les pipelines.
T'sais, j'ai l'impression que Mark Carney, présentement, a emprunté le guide de la CAQ, et ça ne sera pas positif ce que je vais dire, avec le troisième lien. OK, je vais l'annoncer 6 fois pour espérer me faire élire 3 mandats dessus. Je vais annoncer un pipeline. Là, on va partir en campagne électorale dans 1,5-2 ans parce qu'on est minoritaire. On va renoncer le pipeline qu'on avait déjà annoncé.
C'est une bonne comparaison, Jeff, mais en plus, les oléoducs, c'est à peu près 1000 fois plus compliqué que de faire un tunnel ou un pont.
En plein ça. Et je trouve que depuis qu'il est au poste de premier ministre, j'ai l'impression d'être encore en campagne électorale.
T'as raison.
On va bâtir un Canada fort, bâtir maison Canada. Hey, ça, là, c'était conférence de campagne électorale.
Tu parlais un peu trop bien français, par contre.
Oui, je m'excuse. On va bâtir un Canada fort.
Là, tu l'avais.
Là, je l'avais. Mais c'est ça. Il est encore en campagne électorale. Il a 0 résultat. Il a été élu depuis le 28 avril. Il nous parle encore de une économie forte. Ouais, mais quand est-ce qu'elle arrive, cette économie-là?
Honnêtement, le contexte actuel est d'une complexité sans fin. OK? Ben oui. J'ai de l'indulgence, OK, pour le gouvernement. J'ai une petite réserve d'indulgence pour ça. Mais par exemple, j'ai pas d'indulgence pour ce qui a été vendu. Tu sais, si c'est correct de pas être capable de livrer ça, ce qui était l'erreur, c'est... Ben, l'erreur. Ce qui est le péché là-dedans, c'est d'avoir fait de la fausse représentation en campagne électorale. Je vais tout régler avec Trump et, tu sais, Mark Carney, c'est le banquier vert. Tout ça, là, je veux dire, il n'y a rien de tout ça qui s'avère aujourd'hui. Puis honnêtement, on est en droit de se demander aujourd'hui, là, les gens qui ont voté pour Mark Carney, bon, j'ai envie de leur poser la question. S'il y en a qui veulent nous écrire,
ben
on ne dira pas votre nom en nom.
418-971-1021.
Êtes-vous content de ce pourquoi vous avez voté? Est-ce que c'est ce que vous pensiez que c'était? Est-ce que, aussi, vous vous attendiez à des politiques environnementales comme celle-là, oui ou non? Parce que, honnêtement, il y a des gens qui pourraient se demander c'est quoi la différence avec les conservateurs, là.
Ben vraiment, et justement, tu sais, c'est drôle parce que sur Twitch, il y a un auditeur qui nous dit « Les Québécois ont juste voté contre quelque chose, pas pour quelque chose. » Oui, mais voilà. Le contre ce qu'ils ont voté, se passe.
C'est même pas ça, tu sais. Donc, mais c'est vrai. Puis, il faut se rapporter au contexte de la campagne électorale. Le sentiment, c'était la peur.
Oui.
Et M. Carney, ça les rassurait. Mais moi, je m'excuse, mais la confiance envers quelqu'un, ça se brise facilement.
Moi, j'ai plus confiance.
Ben, moi, je m'excuse, mais on nous bullshit.
Ben oui, c'est juste ça. C'est juste des annonces de campagne électorale avec des beaux discours encore pour essayer de nous bullshiter. Parlant de bullshit, avant de passer à la priorité sécurité.
Oui, bien sûr.
Au Québec, tu le sais, c'est la sécurité. Ça fait partie
protégez-nous.
Des quatre priorités, notre identité, notre sécurité. Parlant de bullshitage, voici Magali Picard, à tout le monde en parle.
Madame Picard, les fameux steaks à 88 piastres, les verres de scotch à 55 piastres, les dirigeants de l'FTQ Construction ont marqué l'imaginaire. C'est ça que je vous en parle.
La présidente à Dubaï, hein, M. Guilbeault.
Ben oui, ben oui.
C'était effrayant de vouloir s'occuper d'environnement.
Mais en quoi?
Là, premièrement, le non-verbal de tout ça. Mais c'est parce que tu t'es payé des whisky à 55 piastres. Ta gang, ça l'est payé.
Mais ça parle beaucoup.
Ouais,
elle n'avait même pas besoin de rajouter des mots. Juste son langage corporel et son ton te font dire que c'est banalisé.
Ben oui.
C'est pas grave, ça.
Et là, elle essaye de son voyage à Dubaï. Ah, M. Guilbeault, hey, c'est-tu pas écœurant? On s'en allait s'occuper de l'environnement. Tu gères rien en environnement.
Oui. Ben c'est ça. Ça peut faire débat, là, sa présence à Dubaï. Mais au lieu de dire, écoutez, je comprends qu'il y a des choses qui ont pu peut-être frapper l'imaginaire. C'est un travail en continu aussi de montrer les retombées de ce qu'on fait, puis on le comprend. Puis nous, là, on se rapporte à nos membres. Puis moi, j'ai besoin de sentir le soutien de mes membres, puis je vais continuer de travailler sur des priorités qui touchent mes membres, mettons.
Mais je pense qu'elle est brûlée.
Ben, ça se peut. T'as raison.
Je pense, mais pas physiquement, mais je pense qu'elle est brûlée. Tu sais, peu importe ce qu'elle dit.
Oh, vraiment?
J'ai entendu rien de positif.
Mais c'est ça, oui, mais tu sais, je veux dire, comment tu vas entendre du positif quand t'as réagi comme ça? Elle aurait dû être un petit peu plus constructive. Non,
en effet.
Ça semble pas être dans ses qualités professionnelles.
Non, on dirait pas. Mais bref, tout le monde en parle hier. Bon, c'est ça. Il y avait deux chefs syndicales qui étaient là, qui ont été plutôt gentils avec M. Guilbeault. Puis après ça, t'as Jean-François Roberge, ministre de la CAQ, qui venait défendre son projet de loi sur la laïcité qui se faisait picoter par Caroline Senneville puis Magali Picard tout le long. C'est le fun. Belle ambiance. Je reviens sur Guilbeault juste une seconde pour dire que ça serait...
Je m'excuse. Toi, t'étais fâché. Moi, il fallait que ça sorte sur Magali Picard.
Ben, regarde, tu vois, puis
merci. Je trouve que c'est une belle thérapie qu'on fait.
Exact. C'est une thérapie collective. C'est important.
Pascal, jamais tu vas embarquer dans la thérapie. T'as le droit. Là, s'il y a quelque chose qui va pas...
Puis tu vois, j'ai enlevé mon manteau, fait que ça réchauffe. Donc, hésite pas, Pascal. Ça serait cet après-midi que M. Guilbeault, là, son dossier du patrimoine, donc ministre de la Culture fédérale, qu'on appelle maintenant ministre de l'Identité canadienne, sera transféré à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas c'est qui. Par contre, on me dit qu'il n'y a pas de nouveau au Conseil des ministres. Donc, ça serait redistribué à l'intérieur, les dossiers de Stephen Guilbeault. J'entends que Joël Lightbound deviendrait le lieutenant du Québec. Mais moi, je me demande vraiment où va s'en aller le patrimoine. Le patrimoine, c'est un dossier qui traditionnellement, on donne à un Québécois ou une Québécoise. Hein? On ne donne pas ça normalement à quelqu'un qui ne parle pas français, premièrement. On verra qui se retrouvera avec ça.
Ça existe, ça?
Des ministres qui ne parlent pas français?
Ouais.
Ben oui, toi.
Ah, comme des aspirants chefs.
Les Québécois sont bilingues. Les Québécois puis les gens des Maritimes sont bilingues, mais après ça, là, c'est
exactement.
Plus certain quand on s'en va plus vers l'Ouest.
Ouais.
Peut-être, moi, je me disais peut-être une Nathalie Provost pourrait peut-être avoir une énorme promotion, là, parce qu'elle est ministre des Parcs en ce moment.
Il n'y a pas beaucoup de monde. monde qui parle d'elle non plus, tu sais, dans non. le quotidien non. mortel.
Oui, exact. Ben, ouais, les gens se rappellent d'elle ouais, parce que Mark Carney s'était trompé dans son nom pendant la campagne électorale. Ouais. Elle avait appelé Nathalie Pronovost.
Exactement. Puis c'est la semaine, malheureusement, de reconnaissance là, de la tragédie à la Polytechnique.
6 décembre.
6 décembre, exactement.
Date.
Donc, très, très, très triste date. Alors, ça pourrait être un bon moyen. Bon, François Legault.
Oui.
François Legault, lorsqu'il est arrivé, crinqué de son été, où il nous avait annoncé au début juin qu'il ferait un remaniement ministériel, puis que là, on a attendu ça jusqu'au mois de septembre.
Dégonflant la balloune mois après mois. Ouais.
François Legault nous a nommé des priorités. Parmi une des priorités, il y avait la sécurité. Mais là, la sécurité revient le hanter. On écoute Jennifer Macaroni, la porte-parole du PLQ en matière de sécurité, justement, nous expliquer ces belles coupures-là à la SQ.
Le gouvernement a ordonné des compressions historiques à la SQ, 120 millions de dollars de compressions par année. Ils vont devoir fermer plusieurs postes de police en région. Et pour bien comprendre l'impact, Madame la Présidente, c'est la suppression des patrouilles de nuit, c'est le crime organisé qui va se déplacer dans les régions parce que ça va être un bar ouvert, c'est le baisse du sentiment de sécurité pour la population, c'est un retard dans les appels. À Sainte-Thérèse, ça va prendre un patrouilleur plus de 65 km pour se rendre. Comme si c'était pas assez, on abolit aussi la direction des crimes financiers. Comment un gouvernement qui prétend de dire qu'on y va pour la loi et l'ordre est en train de faire des interventions de « defund the police » ».
Donc ça, c'était le 29 octobre. Moi, elle a une petite fan à Mark Carney.
C'est une bonne ligne, par exemple. Ouais. C'est celles qui n'ont pas compris, parce que c'est en anglais. Elle a dit des actions à la « defund the police », qui est un des slogans plutôt woke qui vise à ce qu'on enlève du budget aux policiers, parce que les policiers, c'est mal. Donc c'est quand même intéressant de sa ligne de communication. J'aime bien.
Donc, 19 septembre, François Legault fait son discours et il dit « Sécurité, 29 octobre, les coupures à la SQ, 120 millions. » 120, 150, là, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire.
Écoute, j'ai pas le chiffre, je vais te le trouver pendant qu'on continue.
En tout cas, bref, on en est où? Rendu au 1er décembre, on va-tu encore faire ces coupes-là à la SQ? Parce que quand ça avait sorti, là, François Legault avait dit « Wow, minute, là, on n'a pas accepté ce plan-là. » Mais on a demandé des coupures quand même, mais on n'a pas accepté ce plan-là. On en est où? On n'a pas de nouvelles depuis
c'était
ce temps-là.
C'était 120 millions pour 120. Répondre à ta question de tantôt. Puis, du côté du gouvernement, dans les couloirs, ce qu'on comprenait, c'est que la SQ avait joué un tour au gouvernement. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que la directive part d'en haut.
Ouais.
Puis après ça, les entités, les ministères, puis les sociétés d'État, organismes gouvernementaux, etc., font leur propre plan. Mais là, normalement, ça remonte au cabinet du ministre. Puis là, le ministre puis son équipe, ils regardent ça, puis ils se disent ça quand ça va sortir dans les journaux, est-ce que je vais me faire ramasser, dans le fond. Mais des fois, les organismes sont fâchés de se faire... Puis je dis pas que c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. Mais ils sont fâchés de se faire couper. Fait qu'eux autres, ils envoient ça direct aux journalistes en disant « Regardez ce que la CAQ nous oblige à faire, c'est épouvantable. » Puis là, ça sort tout croche, puis là, le gouvernement contrôle pas le message. Ça se pourrait, là, que ce soit arrivé, ça, cet automne, parce que c'est jamais agréable de se faire couper. Les organismes, ils veulent pas se faire couper, là. Souvent, ils sont déjà un peu à bout, il manque de monde, etc. Puis là, tu te fais dire « Faut que tu coupes 10 % de ton budget. » C'est sûr que c'est rare que tu popes le champagne quand tu reçois cette directive-là.
Oui, puis surtout, tu as 10 % du budget à la SQ. Et là, je réfléchis à voix haute avec toi. C'est que on met quand même la sécurité dans nos priorités avec raison, parce qu'on le voit, il y a une guerre importante de gangs criminalisés partout au Québec. On le vit ici en capitale nationale. Oui. Tu sais, dans ce que je lis, moi, la SQ... Les gens font du temps supplémentaire à côté parce qu'il manque de monde. On a de plus en plus de difficultés à bien couvrir nos régions qui se sont élargies, qui augmentent elles aussi en population. Donc, je me dis toujours, à quoi qu'on pense?
Avec des défis de plus en plus importants, tu sais, quand on regarde aussi...
Les défis de santé mentale.
Santé mentale, crise de l'itinérance, de la criminalité de plus en plus jeune. Tu sais, c'est des nouveaux défis qui font qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme avant. Et on devrait, en fait, avoir plus de moyens pour gérer certaines choses. Puis on se retrouve avec moins de moyens. Et on a un enjeu important aussi qui sont les féminicides au Québec en ce moment.
Tu as tellement raison.
Et ça, c'est un des angles qui est particulièrement préoccupant parce que, bon, là, il y a les agents de probation qui sont touchés par ces mesures budgétaires et on nous explique que pour économiser de l'argent, on va, par exemple, des rencontres qui avaient lieu à chaque deux semaines, maintenant auront lieu à chaque mois. On nous dit que, par exemple, les gens, les messieurs qui ont des bracelets anti-rapprochement parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de leur conjointe parce que c'est dangereux, là, avant, la SQ, en fait, les agents de probation prenaient contact avec les victimes pour vérifier si le monsieur respectait les règles qui avaient été établies dans sa probation. Maintenant, on ne contacte plus les victimes. Il faut que les victimes lèvent la main elles-mêmes, dans le fond, s'il y a un problème.
Ça va bien.
Voyez-vous le problème?
Non, ça va bien.
Ça, c'est si elles sont au courant. Parce que moi, ce que je me fais dire, c'est qu'en plus, dans les changements, ils ne sont pas nécessairement appelés pour se faire dire « voici les changements ». Donc, si tu ne suis pas nécessairement la politique ou tu n'écoutes pas le caucus avec Anto, ben, tu ne l'apprends peut-être jamais que ben, tu dois faire tes suivis.
Ils vont être laissés à elles-mêmes. Et les questions de violence conjugale, c'est d'une extrême complexité. C'est compliqué. Et on le sait que la violence conjugale, en fait, quand il y a un féminicide, on sait qu'il y a eu de la violence conjugale avant. C'est un des signaux les plus alarmants.
Si ce n'est pas physique, c'est à tout le moins psychologique.
Oui, et du harcèlement et du contrôle envers la personne. Mais généralement, quand on parle à des experts, il y a une escalade. Ça commence par du contrôle. Après ça, c'est de la violence conjugale. Et puis ça ne mène pas toujours à ça. Mais quand il y a un féminicide à la solde, c'est pas arrivé de nulle part. Souvent, il y a eu des signes précurseurs. Et c'est ces petits filets de sécurité-là qu'on retire un à un qui vont faire la différence. On a déjà un énorme défi en termes de féminicide au Québec. Fait que ça, c'est très, 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 très inquiétant. On parle aussi de gens qui, par exemple, ont eu des peines pour des agressions sexuelles ou de la violence conjugale. Si la peine est de moins de 6 mois, on ne fait plus maintenant d'analyse de risque de récidive. C'est le fun.
Et pense-y, la semaine passée, je te parlais de certains dossiers dans l'actualité. Ah oui. Puis il y avait eu un genre de quelques mois seulement, puis on capotait, puis on se disait, mais voyons, c'était une grosse cause, c'était important. En plus, il entre dans cet engrenage-là.
Je suis sidéré.
C'est vraiment
Je suis vraiment sidéré parce que, tu sais, il y a deux moyens pour moi d'enrayer la criminalité, la prévention et la répression.
Oui.
OK? Et là, avec ces coupures-là, on vient tout enlever le volet prévention.
Bien,
on sera pas capable de faire de la prévention dans les écoles. On n'est pas capable de faire de la prévention pour les féminicides, la violence conjugale. Donc, on vient enlever ce volet-là. Et là, en plus, on fait moins de suivi une fois qu'il y a eu la répression. Donc, je comprends plus rien.
Tu as absolument raison. Puis ce qui est vraiment fâchant, c'est que, tu sais, des fois, ces nouvelles-là sortent dans les journaux. Puis moi, j'aime ça aller au-delà du titre puis d'essayer de comprendre si, par exemple, c'était pas efficace, ces mesures-là qu'on est en train d'enlever parce que c'est remplacé par autre chose, etc.
Ouais.
Non, là, c'est juste, on gratte nos scènes. On a besoin, on doit couper partout, dans tous les ministères. Et désolé, mesdames, dont le conjoint, l'ex-conjoint, un bracelet anti-rapprochement, c'est juste une question budgétaire. Puis pendant ce temps-là, on dit aux victimes, faites confiance au système. Il faut que vous dénonciez. Hein? Puis il faut que vous dénonciez comme il faut, hein? Parce qu'il ne faut pas s'être mélangé dans nos propos. Il faut pas être la victime parfaite. Mais pendant ce temps-là, on enlève des filets de sécurité autour de nos victimes.
Oui, la semaine dernière, un cas qui est arrivé, 3 anciens joueurs de football au niveau collégial ou universitaire qui ont été justement reconnus non coupables d'un viol collectif sur une plaignante. Et la juge disait, ben je vous crois, mais il y a juste des choses qui... Tu sais, quand on est rendu là...
Mais c'est déjà extrêmement difficile. Mais là,
victime ait témoigné?
Mais regarde ça. Mettons que monsieur est reconnu coupable d'agression sexuelle. Mettons, là. Mm-hmm. Mais qu'il y a une peine, ça arrive des fois de moins de 6 mois. Mm-hmm. On ne va pas évaluer s'il risque de recommencer.
Mais c'est ça, la...
Allô?
C'est le clin d'œil que je faisais tantôt. Puis en plus, les causes qu'on suit, nous, en nouvelles, dans les blocs nouvelles, dans les émissions, ben la semaine passée, on s'insurgeait de certaines qui n'étaient pas assez sévères. Fait qu'imaginez, on se disait qu'ils n'étaient pas assez sévères. Puis dans ce qu'Anthony décrit aujourd'hui, ben c'est dans quel engrenage qu'ils vont se trouver. C'est beaucoup de juridictions fédérales, tout ce qui est justice, là, majoritairement. Au niveau du provincial, quand on voit des choses comme ça se faire, est-ce qu'on va se faire accuser, peut-être, si on s'en va en Assemblée nationale puis on décrit ces politiques-là, de ne pas s'occuper de nos affaires?
Mais en fait, ce qui est fédéral, c'est le code criminel.
Oui.
Et tout ce qui est GRC, tout ça. Mais évidemment, c'est partagé. Là. C'est-à-dire que les agents de probation, les peines dont je vous parlais, ce sont des peines de moins de 2 ans. Là, tu rentres dans le système carcéral qui est québécois, etc. Effectivement. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que le gouvernement nous a dit que c'était une priorité. Alors, je m'excuse, je reviens à ma bullshit de tantôt. Je suis vulgaire aujourd'hui, je m'excuse.
Non, mais c'est ça.
Mais pourquoi tu me dis ça, que c'est une priorité, puis qu'après ça, tu vas... Si c'est une priorité, tu sais, je veux dire...
Tu vas pas couper dans ce qui est même pas du gras.
Puis tu sais, je veux dire, c'est une priorité, OK? Je vous annonce une priorité, 2 semaines après, tu coupes.
Ben dans ce qui est pas annoncé... du
gras. C'est ça, pourquoi
dans
tu...
ce qui est essentiel.
Ben oui.
Exact.
Fait que t'as raison. Bullshit. Bullshit de Legault, bullshit de Carney.
Ouais.
Puis moi, en plus, je reviens à l'actualité. La semaine dernière, on a enlevé le bracelet anti-rapprochement québécois parce qu'il faut qu'il passe l'hiver en Floride.
Ah, beau petit. Ben oui.
Sèche et crève chez vous pour l'hiver, là. Je m'excuse, là. Parce que là, après ça, c'est... sous la bonne foi. Quand il va venir de la Floride, il va aller voir son agent de probation puis il va dire « On remette-moi ça à ma cheville! »
Ben oui, c'est sûr.
Hey, on...
Puis bon, j'imagine qu'ils n'ont pas la victime non plus.
Ouais, c'est... Ben non, parce que là, ils n'ont plus le temps de le faire.
Ah, misère humaine.
Ah,
bon, OK.
Seigneur Dieu.
En terminant.
Vas-y, en terminant.
Je veux vous faire rire.
Okay? Oui.
Parce que, est-ce que vous connaissez le petit journal satirique de Beaverton?
Non, je ne connais pas ça.
Bien. OK. Bon, les journaux satiriques, c'est comme The Onion. Là. Ça fait des faux titres, puis là, on trouve ça bien drôle, ces médias sociaux. Mais c'est sûr que quand ça s'en va à l'international, des fois, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui est un vrai journal, puis qu'est-ce qui n'est pas un vrai journal. Puis de Beaverton, il semble que les Américains ne savaient pas que c'était un journal satirique. Le journal qui avait décidé de quoter, de citer l'ambassadeur américain au Canada, M. Ortica, qui une fausse citation qui disait qu'il aimerait vraiment que les Canadiens changent d'attitude, en fait, parce que sinon, il allait nous bombarder. En gros, c'était ça.
Ah, oui, okay.
Et qu'il allait mettre des tarifs de 500%. Et ça a été, je voulais juste vous dire, ça a été repris par le Time Magazine.
Ah, oh, non, non.
Aïe,
le Time, c'est pas...
Non.
C'est 500. le journal du coin de la rue fait par Gérard puis sa fille, là.
Non, c'est ça. Alors, voilà, ça, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Monsieur Ortica a quand même des paroles dures envers les Canadiens, mm-hmm. mais quand même, il ne propose pas des tarifs de 500% et de bombarder le Canada.
Alors, Antonine Iacarini est avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30. Aujourd'hui, c'était la chronique Bullshit! Bullshit
oui,
corner, bullshit logo, bullshit de ce média-là qui a fait la croissance à temps.
Et voilà, c'était... thématique.
Et voilà, thématique bullshit en ce lundi avec Antonine Iacarini. Crime partiel, Antonine, c'est fâché, pensais-tu ça?
Mais avec raison.
Oui, oui, merci. Mais c'est fâché.
Merci pour votre appui.
Hey, c'est fâché.
Je me fâche pas tous les jours, par exemple. Fait que quand je me fâche...
Ben c'est ça, ça a de l'impact.
Ben c'est ça, d'habitude c'est sérieux.
Ouais, je vais faire attention, je vais reculer mon micro.
Fais bien attention.
Là, on parlera pas de quelque chose de fake, par exemple, après la pause. Parce que... Stéphane Turcot débarque en studio, Pascal CV. Pourquoi? Parce que les gilets des Nordiques étaient là, sur la glace du Colorado, samedi. les Nordiques...
Badaboum aussi. Ah ouais,
badaboum. Les Nordiques ont clenché le Canadien 7-2.
Ça a ravivé les anciennes tensions, même si c'est pas tout à fait la
je
même équipe.
Je me suis tellement débouché une bonne IPA pour regarder la troisième période quand je suis revenu de
mais
coach au hockey.
Tu parce prends que... pas pour le Canadien, toi?
Oh que non! Regarde mes veines. Quelle ouais. couleur tes voix?
Bleu.
Bleu. Moi, j'ai les veines bleues nordiques.
Mais tu prends aussi pour les Jays, mais sont bleus aussi.
Yeah, exactement.
Mais la
pas...
bière des fans des Nordiques dans le temps, parce
c'était
qu'il y avait deux...
C'était la O'Keefe.
C'est la O'Keefe.
Ah ouais, ouais. Puis hey, je vais te dire une affaire, là. Tu servais pas
une
Molson au
un
monde
fan
qui prenait pour les
Nordiques.
La Molson, c'était la bière du Canadien.
C'était le diable.
Ouais, puis on va parler aussi avec Stéphane Turcot, les Nordiques, là. Ah, OK, je sais, là, ils reviendront pas, là. Mais le Canadien est contre les Nordiques. Geoff Molson ne veut pas que l'Avalanche Colorado porte son chandail des Nordiques au Centre Bell au mois de février. Scandale! Comme dirait Jacques Gourde.
Ouais, j'étais comme, tu sors ton Jacques Gourde, là.
L'heure est grave, comme nous dirait Ruba Gazal.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
C'est ce qu'on va avoir après la pause. Tu restes sans Tannine, comme on parle, OK?
Non, bye-bye.
OK, salut! C'est à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase. Steph Turcot s'en vient s'asseoir avec nous. On va avoir bien du plaisir. Come on.